Il est originaire des Hautes-Alpes et comme toute famille de hauts alpins, tout le monde a baigné dans le ski dans sa famille, sauf que, eh bien, son bain, lui, il le préfère à remous, beaucoup de remous. Il est devenu skipper et partira le 10 novembre, donc dans quelques jours, sur le Vendée Globe, 45 000 km, soit 24 300 miles nautiques de distance théorique. C'est son troisième Vendée Globe. Romain Attanasio, bonjour.
Bonjour.
Alors pour vous, il y a eu des routes du Rhum, des transats Jacques Vabre, mais c'est quoi qui fait la saveur toute particulière d'un Vendée Globe ?
Ah bah pour reprendre une formule de montagne, c'est un peu l'Everest des courses larges. Hein. C'est la plus grande course, c'est le tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. Voilà, pour les marins, c'est le Graal en fait.
2016-2017, vous l'aviez déjà fait, Vendée Globe un peu compliqué, 15e place à l'époque, 14e en 2020 et 2024, du coup on fixe quoi, un top 10?
Ouais, c'est ce que j'aimerais bien, après c'est tellement difficile, le Vendée c'est vraiment l'inconnu, hein, sur une transat, une route du Rhum, une transat Jacques Vabre, je peux presque vous dire quand je vais arriver, j'exagère mais à peine, tandis que le Vendée Globe on part, on sait pas quand on arrive, où on arrive, si on arrive, donc c'est difficile de faire un pronostic, mais... J'ai réussi à faire dans les 10 premiers. J'ai pas un bateau neuf, Fortinet Best Western, c'est un bateau qui a déjà 8 ans. Donc j'ai réussi à faire dans les 10 aux courses en solitaire, donc j'aimerais bien faire la même chose. Mais mon premier Vendée, j'ai mis 110 jours, 90 mon deuxième. Donc là, je me dis qu'avec avec ce bateau, ça doit être faisable en 75 ou 80 jours.
Et oui, on va préciser, le premier Vendée Globe, c'est avec un pingouin. Là, ce sera avec un foiler. Qu'est-ce qui change, justement? C'est plus rapide, c'est plus physique aussi?
Ouais, c'est mon premier Vendée, j'avais vraiment souffert de la solitude, 110 jours, j'avais trouvé ça très long, mais le bateau était beaucoup plus facile, c'était un vieux bateau à dérive, donc ça n'avait rien à voir avec la navigation qu'on peut faire maintenant sur ces foilers qui sont complètement dingues, c'est-à-dire qu'on vole au-dessus de l'eau, ça tape beaucoup, ça fait un bruit infernal, donc oui, ça dure moins longtemps, mais par contre, c'est sûr que c'est beaucoup plus physique, on a un casque sur la tête, des bouchons dans les oreilles, enfin c'est... Ouais. Ça n'a plus rien à voir.
Ouais, vous avez d'ailleurs été blessé à la tête dernièrement.
Oui, la dernière transat. Ouais, bah, en fait, ça accélère fort, mais surtout, ça freine très fort quand ça tape une vague. En fait, les foils nous permettent de voler au-dessus des vagues, mais forcément, régulièrement, quand on touche l'eau, quand le bateau se pose dans une vague, bah, là, le choc est vraiment brutal, parce qu'on navigue à 25-30 nœuds. Et là, bah, ouais, c'est... J'ai pas vu venir et j'ai traversé le bateau et je me suis cogné dans la cloison. Donc et évidemment à ce moment-là, comme toujours, je n'avais pas le casque.
Et voilà, il faut toujours porter son casque. Il y a quelques jours, vous disiez, je n'ai jamais été aussi pas prêt. C'est certainement en rapport avec votre dématage, hein, sur ce nouveau foiler lors du défi Azimut à 3 mois du départ. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là?
Ouais, c'était la dernière course. Vraiment, on testait les dernières petites choses neuves qu'on avait remplacées sur le bateau. C'était un petit rodage. On avait remplacé des cordages. Vous savez, ils glissent un peu quand ils sont tout neufs. Donc il faut faire tout ça. La course était en second plan. Hein. C'était une course en solitaire, mais on était 3 à bord. Il fallait vraiment rien casser. Et effectivement, j'ai dératé le truc qui n'arrive presque jamais. En tout cas, qui m'était jamais arrivé. En fait, c'est la catastrophe, parce que les 5 premières minutes, d'ailleurs, je crois que je dis à mon coéquipier qui était avec moi, je lui dis, laisse tomber, il y aura pas de Vendée Globe. Et puis bon, ça a duré 5 minutes, et après, on s'est mis tout de suite au travail, on a mis 30 heures pour rentrer au moteur, parce que c'était au large de Bordeaux. Et puis là, il y a un élan de solidarité incroyable qui s'est créé entre les marins qui m'ont permis de récupérer du matériel, dont un mât.
Ouais, Maxime Sorel, hein, qui vous a vendu son mât de rechange, et à Boris Herman aussi, qui vous a donné du matériel. Et puis, il y a eu aussi cette cagnotte, justement, qui a bien fonctionné. Il y a quelques instants, elle était à 163 000 euros, mais il reste encore un peu. Hein.
Ben oui, c'est sûr que ce dématage, c'est 450, 480, j'ai pas encore fait les comptes, 480 000 euros, donc c'est très cher. Moi, quand j'ai acheté ce bateau, moi, j'ai un projet, voilà, que je gère moi-même, en fait, donc le bateau, je l'ai acheté moi, enfin, je l'ai acheté moi-même, c'est la banque qui l'a acheté pour moi, mais j'ai pas de caisse de secours. En tout cas, pour financer ce genre de problème, le bateau, je l'ai acheté d'occasion. Donc, quand il faut racheter tout neuf, ça coûte une fortune. Alors, c'est vrai qu'on a fait avec ma compagne, Nori, cette cagnotte. Et pour être honnête avec vous, elle me dit, j'ai choisi Litchi parce que c'est 6% de commission en dessous de 10 000 euros. Mais au-dessus de 10 000, c'est 1,5%, c'est moins cher que toutes les autres. Et je lui dis, mais laisse tomber, on n'y arrivera jamais à 10 000 euros, tu ne te rends pas compte. Alors quand je vois le montant de la cagnotte aujourd'hui, c'est fou. Il y a plus de 1 400 personnes qui sont du coup sur le mât, parce qu'on a mis tous les noms sur le mât. Et ça continue encore aujourd'hui jusqu'à jeudi. Et c'est vrai que c'est incroyable. Au-delà de l'argent, c'est aussi, vous imaginez, un soutien moral incroyable.
Ouais, c'est une aventure humaine aussi qui a commencé donc bien avant. Vous le sentez comment ce nouveau mât? Puisque ça aussi, c'est un nouveau paramètre à prendre en compte, peut-être même une nouvelle difficulté.
Alors oui, c'est des mâts monotypes sur nos bateaux. C'est la seule pièce monotype qu'on a, c'est les mâts. Parce qu'avant, on cassait des mâts et à un moment, on s'est dit, bon, on n'a qu'à en faire des plus lourds et plus solides, mais c'est pas grave, on aura tous le même. Donc ça, c'était une chance, parce que s'il avait fallu reconstruire un mât, j'aurais jamais été dans les délais, ça prend 4 mois. Mais donc, en fait, j'ai remis tout neuf, c'est comme avant, mais en neuf. Le seul truc, c'est que j'ai pas pu faire suffisamment d'essais pour mettre en tension. Vous savez, les haubans, ils tiennent avec des transfilages, en fait, c'est plus des manilles comme on avait sur les bateaux de croisière à l'époque. Donc tout ça, ça a besoin d'être mis en tension, ça perd un peu de charge. Ça a besoin d'être réglé au fur et à mesure, ce que je ne pourrais pas faire en mer. Donc on a fait un réglage un peu tendu, en espérant que ça se détende pas trop pendant la course. Et puis peut-être des petites pièces d'usure, vous savez, sur un cordage qui ragrait sur un petit endroit dans le mât qui serait pas parfaitement lisse. Ça malheureusement, je pourrais pas le voir avant le départ. C'est normalement des choses qu'on teste bien avant. Mais bon, tout est neuf, donc normalement, il devrait pas y avoir de problème.
Et je reviens quand même sur cette déclaration que vous avez faite il y a quelques jours. Je n'ai jamais été aussi pas prêt. Est-ce qu'on est quand même vraiment prêt pour un Vendée Globe?
Oui, non, je suis prêt, bien sûr. Là, le bateau est prêt. Vous savez, hier, mon équipe technique était en train de mettre quelques gouttes d'huile dans les poulies à l'arrière. Donc, quand on est là, c'est que c'est bon. Et puis, cet après-midi, on va naviguer. Donc, c'est bon. C'est juste que c'est vrai que ça fait 4 ans que je dis à l'équipe, on va pas développer le bateau. Ça sert à rien. De toute façon, on n'a pas les finances pour ça. Il faut qu'il soit fiable. C'est le seul truc que je veux. Mes deux premiers Vendées, vous l'avez dit, je les ai fait quand même en mode très dégradé. Le premier, j'avais plus de gouvernail. Le deuxième, j'avais presque plus de voile. Donc aussi, je peux faire une bonne chose si le bateau est en 95% de ses possibilités. Donc démater là, ça nous a mis dans une panade pas possible. Et c'est vrai que plutôt que faire fignoler les détails, on a passé le dernier mois et demi, 2 mois là, à courir après le temps pour que le bateau soit opérationnel. C'est en ça que ça nous a un peu perturbé, mais en fait, bon, ça m'a finalement aussi empêché de stresser, ce qui est peut-être pas mal.
Départ donc le 10 novembre des Sables d'Olonne, un tour du monde par 3 caps, un Bonne Espérance, le Wynne et Horn, le tout, vous l'avez dit, sans escale et sans assistance. Retour en Vendée aussi. Est-ce qu'il y a des passages clés que vous redoutez en particulier?
Oui et non, parce que le Grand Sud, c'est très difficile. On a hâte d'y aller, puis quand on y est, on se dit, oh là là, quand est-ce que je sors? La sortie, c'est le Cap Horn, parce que c'est vrai que la mer est très forte, le vent est lourd, donc tout est hostile. Et puis si on a un problème... au milieu de l'océan Indien, c'est 8 jours hein, pour avoir les secours, donc ça, il faut y penser aussi. Donc c'est vrai que ce passage-là est toujours délicat. Après, au dernier Vendée, ma plus grosse tempête où je me suis cassé 2 côtes parce que le vent était de face, c'était en remontant l'Atlantique, donc finalement, pas dans le Grand Sud. Donc en fait, ça dépend vraiment, finalement, tous les endroits peuvent être dangereux ou pas selon la météo.
Autre paramètre aussi pour vous, un peu plus personnel, vous allez être à nouveau papa avec votre compagne Laurie Faye, qu'on a beaucoup suivi sur Alpe 1, qu'on connaît bien, elle a rejoint votre équipe. Et du coup, on vous a vu aussi sur de nombreux trails avec elle. C'était quoi son objectif? C'était de vous essouffler?
Ouais, c'était effectivement de... j'ai découvert un peu avec elle les trails, et c'est vrai que j'y ai pris goût, en fait, c'était très addictif. Et puis c'était aussi un moyen de faire des choses ensemble, ce qui était super. Et donc je découvre un autre sport. On avait ce week-end notamment, on est sponsorisé l'un et l'autre par une marque qui s'appelle Meltonic, qui fait des barres donc voilà, pour les trailers. Donc on avait que des grands champions ce week-end qui sont venus sur le bateau. Il y avait Aurélien Sanchez qui a gagné la Barclay, Blandine Hirondelle qui est championne du monde. Pour moi, d'être avec ces champions, je trouve qu'on a beaucoup de liens, comme j'ai beaucoup souvent aussi avec les montagnards, parce que finalement, on fait chacun un sport où voilà, c'est un peu particulier. Hein. Des fois, on peut être en très grande difficulté, on veut abandonner, mais bon, moi, je suis loin en mer, eux, ils sont en montagne, en pleine montagne. Donc, on se trouve des liens comme ça, et je trouve ça assez chouette. Donc, le partager avec elle, c'est vraiment super, puis j'apprends plein de trucs. Donc, on compte s'y remettre à l'été prochain.
Et peut-être d'ailleurs dans les Hautes-Alpes.
Exactement, ouais, dans le DAF, j'aurais adoré faire le trail de Vars l'année dernière, mais malheureusement, j'ai pas réussi avec la préparation du Vendée. Mais oui, peut-être qu'un jour, je pense que pour sans chauvinisme, je pense que pour faire du trail, c'est quand même la plus belle région du monde.
Et qu'est-ce qu'on souhaite à un skipper et qu'est-ce qu'on ne souhaite pas à un skipper? Dernière question.
Qu'est-ce qu'on souhaite à un skipper? Bon, à peu près tout, la chance, le vent dans le bon sens, pas trop de galères, bref, je prends tout. Est-ce qu'on lui souhaite pas? Je sais pas. C'est tellement, ouais, il faut, voilà, encore une fois, c'est comme en montagne, il faut être bon, il faut bien faire les choses, et puis il faut aussi un peu de chance. Donc, j'espère que tout ça sera réuni pour que tout se passe bien, et puis que je revienne, voilà, au Sable d'Olonne fin janvier. On peut parler de classement et de tout ça, mais finalement, en vrai, l'objectif premier, c'est la ligne d'arrivée. Hein.
Bon, eh bien, soyez bons, soyez chanceux, revenez-nous donc pour ce Vendée Globe. Merci beaucoup, Romain Athanasio, d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1.
Merci à vous, à très bientôt.